Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 18, à partir du verset 18. Luc 18, du verset 18 au verset 23. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit : « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Voilà ce que nous dit la parole du Seigneur. Un homme vient voir Jésus. Il lui pose la question. Il dit : « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire ? Donne-moi une liste des choses à accomplir pour être agréable à Dieu, pour entrer au ciel. » Cet homme avait une certaine connaissance de Dieu, une certaine crainte de Dieu, un certain amour aussi pour Dieu. Et il vient voir Jésus, il dit : « Mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer au ciel, pour hériter de la vie éternelle ?» Le Seigneur lui dit ce qu'il faut faire, il dit : « Pratique la loi. » Il dit : « Mais depuis longtemps, dès ma jeunesse, je pratique la loi. J'obéis aux différentes ordonnances que Dieu a données dans sa parole. » Jésus lui dit : « Il te manque une chose. Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. » Et là, on nous dit que l'homme était triste. Il ne s'attendait pas à cette réponse de la part du Seigneur. Le thème de notre partage de ce soir, c'est la vie chrétienne, une question de choix. La vie chrétienne, ce ne sont pas des paroles sans fin. La vie chrétienne, ce n'est pas dire: je viens à l'église, je viens à l'assemblée, parce que l'église c'est toi et moi. La vie chrétienne, ce n'est pas dire: je suis fils de pasteur ou ancien, ma mère est convertie, je crois en Dieu depuis 10 ans, depuis 15 ans. Cet homme, sa fierté, c'était qu'il pratiquait la loi. Et il y a, dans Marc, c'est écrit: Jésus l'aima, parce que ce qu'il disait était vrai. Il aimait véritablement Dieu. Il aimait Dieu. Il avait un certain respect pour Dieu. Il s'est peut-être privé de certaines choses liées à sa jeunesse pour Dieu. Mais au moment où il a fallu faire le véritable choix de suivre le Seigneur, alors là, il a échoué. La vie chrétienne, deux points, une question de choix. Ce n'est pas des blablabla, des paroles sans fin. Les paroles sont bonnes, mais le Seigneur nous attend dans les véritables choix. Je me rappelle lorsqu'on a fait l'étude biblique sur les héros de la foi, il y a une chose qui avait été dite. On avait dit que ces personnes, ces héros de la foi, n'étaient pas des gens qui étaient parfaits. C'était des gens qui ont péché. C'était des gens qui ont eu peur devant certains combats. C'était des gens qui ont même fui. On se rappelle d'Élie. C'était des gens qui avaient des faiblesses. Mais Dieu les considère comme héros parce que c'était des gens qui, lorsque Dieu a eu besoin d'eux, ils ont fait le choix de suivre Dieu. Lorsque Dieu les a appelés, ils ont fait ce choix-là de suivre. Maintenant, ce choix-là qu'ils ont fait n'a pas toujours été un choix facile. Ça impliquait certains sacrifices, ça impliquait certains renoncements, ça impliquait la mort à soi-même. Mais au moment où il fallait faire ce choix, ils ont fait ce choix-là. Voilà pourquoi Dieu les a qualifiés des héros de la foi. Et c'est ce jeune homme qui vient voir le Seigneur, il dit: « Dès ma jeunesse, Je crains Dieu, j'aime Dieu. Et le Seigneur a voulu faire passer cet homme à une autre étape. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que on peut prendre deux personnes qui se disent chrétiennes. On verra que l'un avance dans sa marche avec le Seigneur et l'autre, on a l'impression qu'il tourne en rond. Pourquoi? Parce que le véritable choix n'a pas été fait, de suivre le Seigneur. On a dit la vie chrétienne, c'est une question de choix. Ce n'est pas une question de capacité, parce que les capacités, on ne les a pas. C'est Dieu qui nous donne les capacités. Parce que quand Jésus dit à cet homme, « Vends tout et suis-moi », mais je pense que dans sa tête, pourquoi il était triste? Il s'est dit, « Mais comment va devenir mon futur? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux faire pour vivre ?» Les gens qui m'ont connu, toujours possédant toutes choses, eh ben demain, je peux me retrouver à manquer. Demain, je peux me retrouver à aller demander de l'aide à gauche, à droite. Tout ça est passé dans sa tête. Et Jésus voit cet homme. Il dit, oh, qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La vie chrétienne, une question de choix. Qu'est-ce que tu décides? T'es ma jeunesse. J'aime le Seigneur. C'est bien. Et le Seigneur permettra une situation où on te critique. Eh bien, qu'est-ce que tu choisis à ce moment-là? Est-ce que tu choisis de renoncer à ta vie? De dire, on m'a critiqué, c'est pas grave, je me tais. Ou alors, à ce moment-là, tu montres de quel bois tu te chauffes. C'est ça que nous sommes en train de dire. C'est ça la vie chrétienne, pratique. Cet homme dit à Jésus, dès ma jeunesse, j'aime Dieu. Mais le Seigneur va nous amener à ce qui est concret, pas à l'abstrait. J'aime Dieu, c'est bien. Je me sacrifie pour Dieu, c'est bien. Je participe aux réunions, c'est bien. Mais le Seigneur va nous amener au concret. Quand il te dit, maintenant, homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Ah oui, mais elle est têtue. Quand il te dit, femme, sois soumise à ton mari. Oh, il est méchant, il est dictateur. C'est là la vie chrétienne, une question de choix. Qu'est-ce que tu choisis? Jésus n'a pas polémiqué avec cet homme. Il vient voir, il dit, bon maître, que dois-je? Il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Parce qu'en venant ainsi, eh ben, il est sûr de lui. Il est sûr que lui, il est bon. Et Jésus est bon. Eh ben, entre eux, les hommes bons, eh ben, ils vont se comprendre. Jésus lui dit, non, il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Alors, si tu considères que Dieu est bon pour toi, alors sois prêt à renoncer à ta vie pour le suivre. Et c'est là que les bas blessent. C'est là que beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut prendre deux personnes, deux chrétiens, on verra que l'un avance et l'autre tourne en rond parce que c'est une question de choix. Lorsque le Seigneur, nous allons voir tout ça, lorsque le Seigneur te dit, là, pardonne. On dit non, c'est trop dur. Je peux pardonner à un tel, mais lui, il ne mérite pas. C'est là la vie chrétienne. Ce n'est pas les paroles. Il y a des pardons parfois, ou alors des excuses qu'on doit présenter à quelqu'un. C'est comme si c'est toute notre vie qu'on engage. Il y a des gens peut-être que pour lesquels, ou avec lesquels on s'est perdu de vue depuis un moment, on s'est fâché. Et revenir voir la personne, tu penses à toutes les 15 années qui sont passées. Tu penses à tout ce qui a été dit. Alors, venir voir la personne pour lui dire, eh ben, écoute, excuse-moi, pardonne-moi. C'est comme si c'est toute ta vie que tu as. C'est là que le Seigneur nous attend. Je ne suis pas en train de dire, s'excuser, c'est bien. On te fait quelque chose, tu demandes pardon, c'est très bien. Mais il y a parfois des enjeux, des excuses où ça engage toute ta vie. Faire cette démarche-là revient à dire que tu es zéro. Et c'est là la vie chrétienne. La vie chrétienne, une question de choix. Cet homme aimait Dieu. Cet homme avait un amour pour Dieu. Mais lorsqu'il a fallu faire le choix de renoncer à sa vie pour suivre le Seigneur, eh bien, il a refusé. Il a refusé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui avancent. Il y en a qui sont toujours au même point. Qui sont toujours dans les mêmes remarques en disant « on m'a fait ci ». On m'a fait ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ci. Mais tant que c'est comme ça, le Seigneur va nous faire tourner en rang. Nous lisons ce que Dieu dit à Israël, Deutéronome 30. Deutéronome 30. À partir du verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, Dieu parle à Israël. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ce que Dieu dit à Israël. Et lorsque Dieu parle à Israël ici, c'est la deuxième alliance. Dieu a fait une première alliance avec Israël en Horeb. Et le peuple a désobéi, a refusé de suivre ce que Dieu a demandé. Alors Dieu fait une deuxième alliance, un peu comme pour se rattraper. Ils arrivent dans le pays de Moab, Dieu parle à Israël. Il dit, écoute maintenant, je veux te faire rentrer dans ce pays que je veux te donner, que je t'ai promis. Mais regarde, je mets devant toi deux choix. La vie, la bénédiction, la désobéissance ou la mort. Alors choisis la vie afin que tu vives, car ta vie et tes jours longs sur la terre vont dépendre de cela. C'est ça que Dieu dit à Israël. Dieu met Israël devant le choix. Et c'est ce que nous avons dit. La vie chrétienne, c'est une question de choix. Ce n'est pas une question de capacité. Le peuple d'Israël est sorti de la mer, l'esclavage en Égypte, traversé la mer Rouge, a vu les prodiges de Dieu. Mais Dieu dit à ce peuple, souviens-toi, est-ce que tu as manqué de quoi manger? Est-ce que tes chaussures se sont usées? Tous les jours, tu as pu manger à ta faim. Mais moi, ce que je te demande, c'est que tu fasses le choix, le bon choix, le choix de l'Éternel, le choix de l'obéissance en la parole. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu dit à Israël. Alors si tu choisis la vie, alors tu seras béni. Si tu choisis d'obéir, mais comme on l'a dit, faire ce choix-là implique de renoncer à soi-même. Faire le choix de Dieu implique de vivre ce que Dieu demande. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il vit désormais une nouvelle vie que Dieu donne. Mais cette vie-là, c'est une question de choix. Tous les jours, on choisit. C'est un contrat. Comme Dieu dit à Israël, regarde, je te fais entrer, mais je te fais signer le contrat. Alors si tu signes ce contrat, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, c'est le malheur qui va s'abattre sur toi. Et être chrétien, c'est signer ce contrat avec Dieu. On choisit d'obéir à la parole de Dieu. On choisit de vivre selon ce que Dieu nous dit. Et c'est ça notre part du contrat. C'est d'accepter cela. C'est d'accepter ce que Dieu nous propose. Et beaucoup sont dans les palabres, dans les paroles, dans les attitudes. Mais Dieu ne nous attend pas là. Dieu nous attend dans les choix de vie. C'est dans les véritables choix qu'on sait qui est réellement de Dieu, qui appartient véritablement à Dieu. Comme on le dit souvent, lorsque on se réunit comme ça, tout va bien, plus ou moins, tout est bien. Mais c'est dans les grands événements qu'on sait réellement qui est qui. Les grands événements, c'est quoi? C'est les naissances, les mariages, les décès. C'est là qu'on voit qui est véritablement qui. Parce que là, tu es confronté à la famille qui va te dire, bah, oh, tu sais, on se marie une seule fois. Oh, la naissance, il faut donner le nom d'un tel. Chez nous, on fait comme si. C'est dans les grands événements qu'on sait qui est véritablement chrétien. Parce que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème. Le jour du mariage, la sœur qui est calme, le frère qui est calme, c'est là qu'on verra, ah bon? Le frère se change 5 fois dans la journée. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est dans ce moment-là qu'on réalise, on se dit, ah, il est comme ça le type. Donc il a attendu ce temps-là pour cartonner, c'est ça. Dans les grands moments, on sait qui a fait quel choix. C'est dans ce moment-là. Et c'est ce que Dieu dit. La vie chrétienne, c'est à des moments clés, quel est le choix que nous faisons? Et c'est la question qu'il a posée à ce jeune homme riche. Il dit, tu veux me suivre, c'est bien. Mais si tu veux me suivre, moi je ne veux pas discuter. Ce que tu as, vends-le et sois prêt à me suivre. L'homme a dit, non. Seigneur, tu m'aurais demandé autre chose. J'aurais accepté. Mais là, ce que tu me demandes est trop grand. Alors, ce que le Seigneur nous demande, si Jésus demande ça à cet homme, c'est parce que il lui donne les capacités de pouvoir accomplir cette parole. Si Jésus lui demande cela, c'est parce qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu le serviras lui seul. C'est pour ça que Jésus donne cette parole-là. Et cet homme connaissait la parole de Dieu aussi. Il connaissait la loi. Lorsqu'il entend ça, ça le renvoie à la loi de Dieu. Eh bien, il est triste, il s'est dit, ah, il m'a coincé. Il m'a coincé. Il m'a eu. C'est pour ça qu'il est triste. Parce que si ça lui fait mal, eh bien, il aurait continué sa route. Tranquillement, comme si de rien n'était. Mais il a été touché, parce que là, Jésus a touché au point sensible. C'est ça. Une question de choix. Et c'est un choix que nous devons faire chaque jour. Renoncer à soi-même. Mourir à nous-mêmes. Matthieu 5. On te frappe sur une joue, tu tends l'autre. C'est ça la vie chrétienne pratique. C'est ça la véritable vie chrétienne. Qui ne se limite pas dans ces locaux-là. Parce que dans ce locaux-là, bon, c'est de la religion, c'est l'habitude. Non, c'est à l'extérieur. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu es au volant, comment tu réagis? Est-ce qu'il y a des gros mots qui fusent? Est-ce que tu veux taper des gens? C'est à ce moment-là. C'est ça la vie chrétienne. Il y en a qui rigolent, mais c'est la vérité. C'est dans tous ces moments-là qu'on sait réellement. Et quand tu te rends compte, tu dis, oh, mais Seigneur, mais je me suis énervé. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne pensais pas que je pouvais arriver à ce point-là. C'est ça. Mais quand ça arrive comme ça, on se dit, oui, mais lui il a exagéré. Non. À ce moment, quand c'est comme ça, on se reprend, on dit, Seigneur, pardonne-moi. La vie chrétienne, une question de choix. Nous commençons par le premier point. L'obéissance à Dieu est une question de choix. Une question de choix. Dieu promet à Abraham, nous n'allons pas lire, il y a tellement de choses à dire. Dieu promet à Abraham de lui donner un fils. Et voilà que ce fils arrive. Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes, le seul. Abraham est dépassé à ce moment-là. Pourtant, Isaac, c'était toute la richesse d'Abraham, c'était toute la gloire d'Abraham, c'était tout son honneur, mais c'était aussi son avenir, c'était les promesses que Dieu avait faites, une postérité qui sera bénie. C'était tout ça pour Abraham, ça représentait beaucoup. Dieu lui dit, bah, ta richesse, bah, je la veux. Abraham n'a pas contesté. Abraham n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Abraham n'a pas cherché à tourner autour du pot en disant non, non, non. Parce que Dieu a bien précisé, il a dit celui que tu aimes. Mais Abraham aurait pu refuser aussi. Lorsque Dieu lui a parlé, il aurait pu refuser. Dire non, Seigneur, là, ce que tu me demandes, ce n'est pas possible. Mais Abraham a obéi. Allons jusqu'au bout de ce que Dieu demande. Dieu lui dit, arrête. Je vois que tu crains Dieu, véritablement. C'est ça la vie chrétienne, l'obéissance en la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu tous les jours. Parfois, cette obéissance sera pour nous comme une sorte de mort. On voit que ce que Dieu nous demande dépasse notre force. Notre chair refuse. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour accepter. Nous lisons ce que Paul nous dit dans Galates 5 au verset 16. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce que nous sommes en train de dire, la vie chrétienne est une question de choix, c'est que Paul est en train de dire que la chair que nous avons sera toujours, marchera toujours contre la volonté de Dieu. Notre chair, lorsque Dieu nous dit pardonne, notre chair te dira non, c'est pas possible, tu souffres encore, tu es hypocrite, comment tu peux pardonner alors que tu as encore mal? Lorsque le Seigneur te dit « obéis », tu dis « mais l'autre m'a fait souffrir, la chair est toujours comme ça, va servir le Seigneur ». La chair te dit « tu es fatigué ». Et bien Paul nous dit « la chair marche toujours contre la volonté de Dieu, toujours ». Ça c'est une réalité, pourquoi? Parce que c'est lié au péché qui a atteint notre nature humaine. Mais maintenant, Dieu nous a donné son esprit. Et maintenant avec l'esprit de Dieu, nous pouvons, par le choix que nous faisons tous les jours, dire « je refuse de céder à la chair ». Lorsque la chair te dit « tu es fatigué », lorsque la chair te dit « ce que Dieu te demande est impossible, Dieu s'est trompé », tu as l'Esprit de Dieu pour dire non. Même si je pense que Dieu s'est trompé, Dieu ne se trompe jamais, alors moi je vais obéir. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je décide d'abord d'obéir. Et je comprendrai après. J'ai discuté avec une personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à Dieu. Et je lui dis non, avec Dieu ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, obéis d'abord et ensuite tu comprendras. Si on met un poison devant lui, on lui dit ne bois pas, c'est du poison. Il va chercher à comprendre, mais pourquoi le poison est là? Pourquoi il a été mis dans ce verre-là? Pourquoi sur cette table-là? Pourquoi? Mais non, on te dit ne bois pas, c'est du poison. Tu ne bois pas, c'est tout. Toi, tu veux boire et ensuite tu vas chercher. Mais non, tu vas mourir après. Et Dieu veut qu'on comprenne, qu'on obéisse. Et ensuite, s'il veut, il nous fera comprendre. C'est comme un enfant à qui on dit, ne touche pas au feu, ça brûle. L'enfant voit la beauté du feu, il dit, oh, c'est beau. Mais le jour où il va toucher, il va se brûler. Et là, malheureusement, peut-être que s'il a encore tous ses membres, il comprendra. Ou alors, il comprendra, mais avec un membre en moins. Mais quelle souffrance. Mais non, nous les hommes, nous sommes comme ça. On veut d'abord comprendre. Abraham n'a pas cherché à comprendre ce que Dieu voulait. Parce que ce qu'il lui a dit, qu'il lui a fait cette promesse, c'est Dieu lui-même. Et voilà que Dieu semble se contredire. Donc Abraham a encore plus de raisons que nous, souvent, à contredire la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui donne un ordre, qui lui fait une promesse. Et Dieu lui-même vient apparemment contredire sa promesse. Donc il avait tous les arguments pour dire « Mais Dieu, mais c'est pas possible. » Donc là, c'est pas Dieu, là c'est une autre voie. Mais non, il a obéi. Il a obéi. Et c'est ce que Dieu veut aussi avec nous. Lorsqu'il nous demande d'obéir, lorsque le Saint-Esprit, comme on a lu dans Galates 5, agit en nous, la chair te dit « Non ». Mais l'Esprit te dit, non, là tu as mal parlé. Là tu as mal fait. Va te repentir. Tu fais ce choix-là à ce moment-là. Tu dis, bon, je vais aller. Même si je n'en ai pas trop le besoin, mais je vais aller quand même. C'est ça. Ce n'est pas des beaux discours. Nous lisons Matthieu 21 au verset 28. Nous allons voir l'exemple de deux hommes. J'aime beaucoup cette parabole-là, Matthieu 21. Matthieu 21, à partir du verset 28. Matthieu 21, à partir du verset 28. Le Seigneur dit, que vous ensemble. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne peux pas. » Ensuite, il se repentit, et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, et n'y alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes point ensuite repenti pour croire en lui. » Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, un homme avait deux fils, et il parle au premier. Il dit, mon fils, va dans ma vigne pour travailler. Le fils refuse. Alors se heurtant au refus du premier, il va voir le second pour lui dire, mon fils, ton frère que voici refuse d'aller travailler dans la vigne. Alors toi, va travailler. Le fils dit, oui, mon père, j'y vais tout de suite. Et finalement, il n'y alla pas. Et le premier, après son refus, il est dérangé au fond de lui. Il est touché. Il va voir son père pour lui dire, mon père, j'ai désobéi. Alors je vais aller à ta vigne. C'est cette attitude-là que Dieu attend de nous. Ces deux fils-là représentent les enfants de Dieu, ou alors ceux qui prétendent être les enfants de Dieu, parce que quand Jésus parle, il parle directement aux pharisiens qui étaient censés être les représentants de Dieu ou les serviteurs de Dieu auprès du peuple, mais qui en réalité n'en étaient pas. Qui prétendaient parler au nom de Dieu, faire les choses de Dieu, en réalité c'était les deuxièmes fils qui sont dans l'apparence, l'exubérance, l'exagération, mais en réalité, les choix ne sont pas là. Les décisions véritables dans le cœur ne sont pas là. Et le premier, il est honnête, il est sincère. Le père lui parle, il lui dit, va dans ma vigne. Parce qu'il imagine, quand on dit va dans la vigne, c'est pas comme ici où des vignes, dans les vignes on a des tracteurs, on a tout ce qu'il faut pour faciliter la vie. Non, c'est dans des champs, tu dois marcher des kilomètres sous le soleil. C'est une souffrance physique. C'est... Alors qu'il est assis tranquillement, il se repose, on l'envoie comme ça, mais c'est difficile. Ah ben, il refuse, il dit non, je ne veux pas. Mais finalement, il est écrit, il s'est repenti. Il a dit non, j'ai mal agi. Je ne me suis pas bien comporté. Je vais aller voir mon père. Je ne veux pas chercher à discuter. Je ne veux pas chercher midi à 14 heures. Je vais aller voir mon père pour dire, mon père, j'ai mal fait. Maintenant, je vais aller. C'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Quels sont les choix que nous faisons? Ce texte est là pour nous dire quoi? Pour nous dire que parfois, ce que Dieu nous demande ne va pas toujours nous faire plaisir. Parfois, les choses que Dieu va nous demander, comme j'ai dit tout à l'heure, ça implique un don de soi total. Parfois, ce que Dieu va nous demander, c'est toute notre vie, c'est tout notre passé. C'est tout ce qu'on a construit, toutes nos études, des diplômes qu'on a acquis. Et on se rend compte que finalement, ce que le Seigneur veut, c'est que je renonce à tout ça pour le suivre, pour le servir. Eh bien, humainement, ça fait mal. On se dit, mais non, mais Seigneur, ce n'est pas possible. On m'a toujours connu comme étant quelqu'un de respecté ou respectable. Mais voilà que tu me mets dans une situation où je dois m'humilier pour aller demander pardon. C'est ça la vie chrétienne. Une question de choix. Et ce premier fils, il a été honnête. Et c'est ça l'attitude que Dieu veut pour nous. Ne soyons pas de ceux qui, ah oui, j'aime le Seigneur, oui, c'est bien tout ça. Mais le Seigneur permettra des événements, des situations, tous les jours de notre vie, pour nous montrer où nous en sommes, comme le jeune homme riche, qui aimait Dieu, qui en était fier, qui pensait connaître, mais réellement, il s'est rendu compte que lui-même, il était incapable. Mais malheureusement, On ne nous dit pas qu'il est revenu pour dire au Seigneur, bon, j'ai compris, je renonce. On ne nous dit pas ça, malheureusement. Et c'est ça la véritable vie chrétienne. C'est dans les choix de tous les jours. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides d'obéir à Dieu, ou alors tu décides le compromis? Une magouille dans la famille, on te dit, bon, tu sais, ça va nous rapporter gros. Mais il suffit que tu déclares ou que tu signes à tel endroit. C'est à ce moment-là que Dieu nous attend. Quel est le choix que tu fais? Dire non, c'est te mettre toute la famille à dos. Dire non, là le diable est très fort pour te dire, mais attends, mais toi-même tu galères, tu souffres. Regarde l'occasion de ta vie. C'est là que le diable va passer pour te dire, mais attends, mais quelle occasion en or! Et là, parfois, il y a des chrétiens qui vont te dire, mais non, tu sais, Dieu peut te bénir aussi. Parce... Non, toi, au fond de toi, tu sais que là, ce n'est pas bon. Tu sais au fond de toi, mais on fait la sourde oreille. Mais c'est à ce moment-là, le choix que nous faisons manifeste réellement qui nous sommes. C'est ça. Je me rappelle d'un film que j'ai regardé, peut-être que certains l'ont regardé, Courageous. Et dans ce film, il y a un homme. J'aime beaucoup cet homme, Javier. Javier, c'est un immigré qui était aux États-Unis et qui souffrait. Il cherchait du travail, un chrétien, et il cherchait du travail partout. Alors, il y a un monsieur qui parle avec son ami des policiers qui dit, bah, tiens, je connais un Javier qui peut venir faire ce travail chez toi, construire un cabanon parce qu'il est doué dans tout ce qui est manuel et il peut venir faire ce travail chez toi. Alors le monsieur dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, tu l'appelles, tu lui dis que demain à 9h, je l'attends chez moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Javier dont les deux hommes parlent, c'est un autre, c'est pas le chrétien. Donc il parle d'un autre Javier. Alors, le vrai Javier, donc le chrétien, je ne sais pas si je me fais comprendre, là où il est, bah, il se fait virer parce qu'on lui dit, il n'y a pas de place pour toi, rentre chez toi, on n'a pas de boulot. Alors sur la route, il rentre, il crie à Dieu, il pleure. Il dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour vivre? J'ai deux enfants, j'ai une femme, je n'ai pas de moyens, regarde, je vais chercher du travail, à pied, parce que je suis obligé de laisser ma voiture, à ma famille. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi, Seigneur? Tout ça. Alors, pendant qu'il prie, il se lamente, il est devant le monsieur qui attendait un Javier, devant sa maison. Alors le monsieur est là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais Javier? Viens là, c'est l'heure. Alors lui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'appelle? Donc il vient, il rentre, donc il fait le travail. Et ensuite, les deux amis se retrouvent. Là, l'autre lui dit, bah, tiens, je n'ai pas pu contacter Javier parce qu'il est à l'hôpital. Ça fait 3 jours qu'il est alité, il n'est pas bien. L'autre se dit, mais c'est pas possible, il y a un Javier qui est venu chez moi. Il a travaillé, il était à l'heure, il dit, mais il y a un problème. Donc le monsieur furieux va voir, il dit, mais attends, l'autre m'a escroqué. Il va le voir, il dit, mais tu t'appelles comment? Il dit, ben Javier. Il dit, mais comment t'es venu ici? Oh, il dit, mais c'est toi qui m'as appelé. Moi j'étais devant chez toi, tu m'as appelé, tu m'as dit que c'était l'heure. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais c'est toi qui m'as fait venir ici. En plus, 150 $ le jour. Oh, le monsieur se dit, mais c'est pas possible. Et voilà, donc je fais court. Finalement, cet homme, par cet intermédiaire-là, il a réussi à être embauché dans une entreprise. Et le chef d'entreprise le reçoit dans son bureau. Il lui dit, écoute, il me semble que tu es un bon élément. Je t'ai observé en essai. Et je te propose un deal. On va recevoir des colis, 17 colis, mais lorsque on reçoit ces colis-là, nous on déclare 16 et l'autre on le met de côté, c'est pour nous. Donc je te laisse le temps de réfléchir et ensuite tu viendras me dire si tu es d'accord pour signer le contrat. Alors lui il est chrétien, il dit j'ai eu, excusez-moi le terme, la chance de ma vie de trouver du travail, un CDI. Mais voilà que le chef, le patron me propose une magouille, il est chrétien, il rentre chez lui, il est triste. Il est malheureux. Il en parle à sa femme. Sa femme lui dit, oui, mais peut-être que c'est comme ça qu'il fonctionne. Bon, les femmes, parfois, c'est des mauvais conseils. Il dit, mais c'est peut-être que l'entreprise fonctionne comme ça. Donc accepte, parce que comment on va faire? Comment on va payer la maison? Javier dit, non, là, c'est le mensonge. Donc le lendemain, donc sa femme lui dit, bon, tu y vas et après l'entretien, tu m'appelles pour me dire ce qu'il en est. Donc il y va, il est reçu par le patron avec un témoin. Quand c'est comme ça, ils sont tous là, en cravate, costume, cravate. Il est intimidé. Alors le patron lui dit, bon, t'as réfléchi, c'est bon, on signe. Il dit, oui, mais patron, il y a un problème. Parce que moi, je suis chrétien, ce que vous me proposez, c'est un mensonge. Alors moi, je refuse. Le patron le regarde, il serre la main, il dit, c'était pour voir si je pouvais avoir confiance en toi. Je vois maintenant que je peux avoir confiance en toi parce que le jour où on va te proposer une magouille, eh ben, tu ne vas pas marcher dans ça parce que tu es quelqu'un d'honnête. Mais voyons comment Dieu fait les choses. C'est pour nous dire, c'est ça, l'obéissance. Parce que dire la vérité à ce patron-là, ça impliquait quoi ? Ben, qu'il soit viré, qu'il soit chassé, qu'il se retrouve à souffrir encore. Mais on ne nous dit pas si le patron était chrétien, mais en tout cas, la réponse de cet homme, le patron, est impressionnée. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Voilà un homme honnête. Donc ça veut dire que je peux te laisser même l'entreprise et partir parce que je sais que derrière mon dos, tu es quelqu'un d'honnête. Mais c'est là que Dieu nous attend. Parfois, on passe par des situations similaires. Eh bien, on veut bricoler. On veut... Non, Dieu nous attend dans l'obéissance, dans la vérité. Le diable sera là pour te dire, mais regarde, tu es correct, mais ça t'apporte quoi ? Regarde, c'est ce qu'il a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, mais regarde, tu as faim. C'est ça le diable. Mais le Seigneur, lui, veut que nous fassions les bons choix. On dise non, même si la proposition est belle, parce que le diable fera toujours des belles propositions, des très belles. Ça, il en a, des belles propositions, il en a. Des propositions en or, il en a. Il en a. Et voilà, cet homme a été fidèle à Dieu. Finalement, il a eu ce travail. Mais non seulement il a eu ce travail, il a eu plus. Il a eu la confiance de son patron. C'est ça que Dieu fait. La bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand il bénit véritablement. La vie chrétienne, deux points, une question de choix. Une question de choix par rapport à quoi ? Deuxième point, au péché. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, nous n'allons pas lire à partir du verset 14-15, il dit, il y a un conflit en moi, je sais ce qui est bien. Quand je veux faire, c'est le mal que je fais. Il dit, mais je suis misérable, je suis pauvre, mais je souffre. Et il dit au chapitre 8, juste après, il dit, mais gloire soit rendue à Dieu, en Jésus-Christ, qui nous rend victorieux sur le péché et sur la mort. C'est ça. C'est ça. Lorsque le péché se présente, on se rappelle dans Genèse 4, au verset 7, Dieu parle à Caïn. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn ? Il dit, Caïn, le péché demeure, se couche à ta porte. Mais toi, fais quoi ? Domine sur lui. Toi, domine sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par ta vie d'obéissance, par ta vie de crainte de Dieu, par ta vie d'amour pour Dieu, lorsque le péché se présente à toi, puisque tu aimes tellement Dieu, tu vas renoncer à cela. Et lorsque tu sens que tu n'as pas la force, tu pries. Tu pries. Tu penses que c'est trop fort pour toi, tu demandes de l'aide. C'est ça. Mais bien souvent, on veut se sauver tout seul. Et c'est ce que malheureusement Caïn a fait. Il a voulu prouver à Dieu qu'il était fort, il a finalement désobéi, il a tué son frère. Lorsque Dieu vient le voir pour lui dire, mais il est où ton frère ? Il dit, suis-je le gardien de mon frère ? Mais il répond à Dieu avec ironie. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Dieu lui dit, voilà, je t'avais prévenu. Il y a un verset qui dit dans Matthieu 5, à partir du verset 29, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que Dieu dit ? Arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Seigneur ne nous appelle pas à nous automutiler, non. Le Seigneur veut dire, parce que quand il dit arrache, c'est quelque chose de barbare, de violent. Mais c'est pour nous dire que le Seigneur nous dit, face au péché, on doit avoir une réaction aussi violente. On ne doit pas fuir le péché en disant, ah, le péché, Ah, le péché, ah, le... Non. Quand le péché se présente, on a une réaction violente. S'il faut fuir, on se rappelle de qui ? De Joseph. Joseph n'a pas dit « Je suis spirituel, je vais rester devant la femme de moi. » Non. Il a laissé la tunique, il est parti. Il est parti. D'aucuns diront « Ah, il a fui. » Ah ben oui, c'est le péché. Lorsqu'on sent que on n'a pas la force de lutter, bah, vaut mieux fuir. Mais il y a des gens qui jouent avec le feu. Oh, c'est mon ex. Ils se retrouvent dans une maison ensemble, dans un appartement ensemble. Non, mais toutes les façons, il n'y a rien. Mais non. Non. Le Seigneur dit, lorsque ton œil a un problème, bah, enlève-le. Ta main, enlève. C'est pour dire, la réaction face au péché, elle doit être radicale. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de conciliation. Il n'y a pas de non. Non. Mais ça, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Lorsque tu sens que le mensonge est dans ta bouche, tu dis, ah bon, là j'ai menti pour calmer les choses. Non, le mensonge est un mensonge. Renoncer au mensonge, c'est ça que ça veut dire. Et ça nécessite une réaction radicale. Et le diable étant rusé, comme j'ai dit tout à l'heure, il viendra toujours avec des compromis pour te dire, mais c'est pas si grave. Regarde, tout le monde fait ça. Pour toi, il n'y a que toi qui agis comme ça. Vous aussi, vous exagérez. Nous aussi, on est chrétiens, on fait... Ah oui, mais oui, c'est vous. Nous, on ne fait pas comme ça. Oh, vous êtes nuls. Oui, on est nuls. Que ceux qui font face. Mais nous, nous craignons l'Éternel. C'est ça. Devant le péché, comment nous réagissons ? Est-ce que nous sommes complices ? Il y a des gens parfois aussi qui sont dans une attitude de neutralité. Ils voient quelqu'un, son mari ou sa femme, dans le mensonge, dans le péché ou son cousin. Bon, il est neutre. Comme ça, je dis rien. Il n'y aura pas de problème, on n'ira pas que c'est moi. Mais en même temps, il cautionne. Mais la Bible dit celui qui est neutre, eh ben, il est pareil même que celui qui détruit. La sentence sera la même. En justice, c'est ça. En justice, lorsque quelqu'un recèle un bien, et que toi tu es présent, ben on t'embarque aussi. On ne dira pas, ah non, moi j'ai juste regardé pour voir la couleur, hein, c'est tout. Hein. Ah, on dira non, tu es complice. Tu es complice. Et Dieu est contre la neutralité. Et il y en a qui sont là, ils sont neutres. On se rappelle ce que Balak dit à Balaam. Il dit, bon, si tu ne veux pas maudire Israël, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il dit, bon, dans ce cas-là, ne bénis pas alors. Oh, ben non, c'est comme ça que le Dieu agit. C'est comme ça que le diable, pardon, agit. Balak pousse Balaam à maudire Israël. Balaam essaie, il voit que Dieu refuse. Balak lui dit, bon, dans ce cas-là, ne dis rien. Ne bénis pas alors. Mais ne pas bénir Israël revient à quoi ? Revient à maudire Israël. Parce que Dieu te dit, bénis Israël. Et beaucoup sont dans une attitude comme ça, de complaisance, de neutralité. Alors qu'il faut faire des choix, alors qu'il faut décider pour dire non, moi, je ne participe pas à ça. Moi, je suis chrétien. Et parfois, on a peur de se mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, la famille à dos, les problèmes. Qu'est-ce qui va venir après ? Mais oui, mais c'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Devant le péché, on doit avoir une attitude radicale. C'est ça que ça veut dire, arrache ta main ou ton œil, c'est être radical. Ne pas dire, bon, on comprendra, tu sais, la cigarette, tout doucement. Non, non, c'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est que Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit pour délivrer celui qui est en Christ et une nouvelle créature. Une nouvelle création, il est créé de nouveau, avec de nouvelles aspirations, avec de nouvelles envies, avec une nouvelle vie, avec de nouveaux désirs. C'est ça que la Bible dit. La Bible ne dit pas, petit à petit, hein. Jésus ne dit pas à Nicodème, bah, petit à petit, non, il dit non. Ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ce qui est de la chair, bah, manifestera aussi la chair, c'est normal. C'est ça. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Comment nous réagissons ? Est-ce que nous dénonçons le péché ? Est-ce que s'il le faut, nous fuyons le péché ? Ou nous faisons les gros, les caïds, les durs ? Dieu nous a donné la puissance pour résister, pour dominer. Et lorsqu'il arrive, qu'on tombe, il est écrit dans 1 Jean 1,9 que nous pouvons prier, demander à Dieu, dire à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai mal fait. Et soutiens-moi afin de marcher à nouveau. » C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une question d'obéissance, de choix. Un autre point, c'est le pardon. C'est le pardon. J'ai mis ce point-là à part parce que c'est un point qui est important. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 14. On peut le lire, Matthieu 6, 14. On va lire ça. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pendant qu'on y est, on peut lire aussi rapidement Luc 23. Luc 23, à partir du verset 26. Luc 23, 26. Comme il emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargeur de la croix pour qu'il apporte derrière Jésus. Il était suivi par une multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, en tirant au sort. Voilà ce qu'il nous est dit. On a dit un autre point, c'est le pardon. Le pardon, c'est une question de choix. Le pardon, ce n'est pas une question liée à nos sensations. Parce que si on attend de sentir qu'on va bien, qu'on est libéré pour pardonner, eh ben, on ne pardonnera jamais. On a lu Matthieu, Galates 5, 16, qui nous dit que la chair a des désirs contraires. C'est un fait, c'est comme ça. De sorte que ce que l'esprit veut faire, la chair s'y opposera toujours. Et là, on nous dit, le Seigneur nous dit, si vous pardonnez, moi aussi je vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonne pas. Et on a lu l'histoire de Jésus qui est conduit à la croix. Et nous n'avons pas lu la suite où des gens, la foule suit en disant, mais il est prophète, mais qui se sauve lui-même. Certains se moquent. Les soldats qui sont là, qui donnent du vinaigre, qui se moquent de lui. Mais qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils sont ignorants, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que le Seigneur dit. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus était content, heureux de ce qu'il vivait ? Il était tellement faible à tel point que Simon de Cyrène vient l'aider pour prendre la croix. Mais il était en position de faiblesse, d'humiliation. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Et ça, c'est un point très important. Le pardon est un choix. Le pardon est une décision. C'est une décision. Je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Pourquoi ? Parce que c'est ça le fonctionnement de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 6, 4, si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vous pardonne pas. Parce que Dieu, dans son fonctionnement, il a établi des règles. Alors, comment nous, on veut bénéficier du pardon de Dieu par grâce ? Et lorsque nous, on doit manifester le pardon aux autres, on refuse. Mais le Seigneur dit, mais nous sommes méchants. On se rappelle de cet homme qui devait de l'argent à son maître. Il va voir le maître pour lui dire, maître, pardon, excuse-moi. Laisse-moi encore un peu de temps pour m'organiser, je veux payer ta dette. Et lorsqu'il sort de là, il va Il va maltraiter celui qui lui doit de l'argent. Lorsque le maître entend ça, il dit, mais cet homme est méchant. Allez, envoyez-le en prison tout de suite. Pas de sursis. Et bien souvent, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça bien souvent. Examinons nos cœurs. Pardonnons. Il y a des gens qui ont pris des décisions dans les cœurs en disant tel, je zappe. Parfois même parmi les frères, parmi les sœurs, des chrétiens. C'est une réalité. C'est une réalité. Quel est ce père qui peut prendre plaisir à voir ses enfants ne pas se parler, être en colère l'un envers l'autre? Quel est ce père qui peut prendre plaisir à cela? Mais ce père, il sera triste. Il sera triste. Il ne prendra pas parti pour un au détriment de l'autre. Non. Le Seigneur dit, pardonne-leur, car ils sont ignorants. C'est ça la grâce de Dieu. Le regard de Jésus, c'est celui-là. Il voit les hommes, bien que méchants, bien que rugueux, bien que déterminés, mais il voit ces gens-là comme des gens qui sont perdus dans les ténèbres. Il dit, mais c'est moi la lumière du monde. Seigneur, mon Père, pardonne-leur car ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Et c'est ce regard-là que nous devons aussi avoir, ce regard de pardon. Je me rappelle du film qu'on a vu une fois, Josh McDowell. C'est un enfant, un jeune qui avait des parents, un père alcoolique, très violent, qui frappait sa femme, qui le frappait lui, qui frappait son grand frère. Il souffrait de cela. Sa mère qui souffrait de surpoids, malade. Alors il se disait, mais finalement, pourquoi je suis né dans une telle famille? Lorsque les invités venaient à la maison, il se cachait parce qu'il avait honte de la réaction de son père. Il avait honte. Et il dit qu'il grandissait en nourrissant de la haine contre son père. Lorsque son père frappait sa mère, il venait s'interposer. Il se faisait frapper aussi. Et lorsqu'il a eu 13 ans, arrivé à l'âge de 13 ans, il a commencé à se faire justice lui-même. Lorsqu'il y avait des invités qui arrivaient, son père était tellement alcoolisé, il le prenait, il le mettait dans la grange, il le ligotait comme un animal. Et il laissait parfois un jour, deux jours, trois jours comme ça, son père. Et il avait de la haine. Il en voulait à Dieu. Mais non seulement ça, le monsieur de confiance de la maison qui s'occupait de lui, a abusé encore de lui régulièrement. Là-bas, il était malheureux. Et il grandissait un jour. Il est allé au collège, à l'université. Il a rencontré des chrétiens, il s'est moqué des chrétiens en disant, vous racontez n'importe quoi, je vais faire des recherches pour prouver que finalement la résurrection n'est qu'une fable. Il a fait ces recherches-là. Finalement, il a rencontré Dieu. Ça ressemble à l'histoire de Khalil, cet homme qui était censé écrire un livre pour démontrer que les chrétiens sont dans le faux. Finalement, lui-même s'est converti. Et dans ses recherches, finalement, il s'est converti. Il a été touché par Dieu. Et quand il a été touché par Dieu, il a fait cette démarche d'aller voir son père pour lui dire, parce qu'entre-temps, sa mère est décédée, et lui-même, je passe les détails, c'était un très bon joueur de basket, promis un très grand avenir, et un simple accident alors qu'il travaillait dans la marine, aérienne, dans l'escadron aérienne de la marine, et il y a un outil qui est tombé sur sa tête, il a été hospitalisé finalement, il a arrêté le basket. Malheur sur malheur. Mais quand il s'est converti, il a dit, je veux pardonner à mon père. Il est allé le voir, il a dit, je décide, je fais le choix de te pardonner. Malgré tout ce que tu as pu faire, je suis devenu chrétien et je ne peux pas vivre avec cette haine. Je te pardonne. Et finalement, je fais court, le père s'est aussi converti. Parce que le père était touché de voir mais comment son fils peut l'aimer malgré tout, avec tout ce qu'il a pu faire. Il était conscient qu'il a fait souffrir sa famille. Il était très conscient de cela. Et Josh dit une chose. Il dit, j'étais partagé entre l'émotion et la raison. Et c'est ça justement qui nous fait, qui nous empêche de pardonner. L'émotion, c'est quoi? C'est ce qu'on ressent. C'est le mal qu'on nous a fait. On se dit, mais non, mais c'est trop facile. Attends, mais il va voir. C'est ça l'émotion. Il dit, j'étais partagé entre l'émotion, tout ce que j'ai subi, mais la raison c'est quoi? C'est la vérité. Et la réalité, c'est que ah ben, il est mauvais. Dieu veut le pardonner aussi. Alors toi, commence par pardonner. Et il dit, la raison, la vérité l'a emporté. Il est allé voir son père pour dire, pardonne-moi. Il est allé voir le monsieur même qui a abusé de lui pendant plusieurs années pour lui dire, je te pardonne. Tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que le Seigneur nous attend. Mais lorsque nous sommes dans des attitudes de commérage, ah, tu as vu, ah, l'autre, ah, tu as vu, nous ne sommes pas dans le pardon de Dieu. Nous ne sommes pas dans le pardon de Dieu. Et le Seigneur nous dit, eh ben, on nous mesurera de la même mesure que nous mesurons les autres. Pourquoi nous voulons enlever la paille chez l'autre alors que chez nous, il y a une grosse poutre? On voit la différence entre une poutre et une paille. Ça n'a rien à voir. C'est ça que le Seigneur nous dit. Et il a décidé de pardonner. Finalement, son père s'est converti aussi. Et il a pu voir la gloire de Dieu. Il a servi le Seigneur. Mais tout est parti de la décision, du choix de pardonner. C'est ça que le Seigneur attend aussi de nous. Si nous sommes chrétiens, alors, comme on a dit, la vie chrétienne, deux points, question de choix. C'est un choix. On peut dire, je refuse, malheureusement, on reste sous la colère de Dieu. Alors, à quoi bon faire des activités? À quoi bon faire semblant? À quoi bon, comme disent les jeunes, faire genre? Eh bien, ça ne sert à rien. Ou alors, on dit, bon, Seigneur, je décide, malgré tout, de pardonner. Et quand on est dans ces dispositions-là, eh ben, on met les choses de manière à ce que Dieu puisse maintenant agir. Parce qu'il y a le pardon, parce qu'il y a la paix. Lorsque Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, eh ben, cette prière-là que Jésus fait met les choses à disposition. Parce qu'on se rappelle, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient dit à Pilate et au chef, que son sang retombe sur nous. Ils ont pris la responsabilité, mais Jésus dit, ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Étienne est lapidé, il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. On sait très bien, celui qui était l'instigateur de tout ça, Saul de Tarse, Paul, on sait que Dieu l'a touché finalement. La prière à la disposition d'Étienne a fait que finalement, Dieu a touché Paul. La vie chrétienne est une question de choix. Et lorsqu'on fait le choix, on fait la démarche jusqu'au bout. Une question de choix, un autre point, la repentance. C'est un choix, on choisit. Jésus vient chez Zachée. Sans qu'il ouvre la bouche, Zachée lui dit, Seigneur, je reconnais que je suis un homme mauvais. Voleur, escroc, et c'est ce que la foule dit de Zachée. Il dit, aujourd'hui, je décide de restituer. Jésus dit, le salut aujourd'hui est entré dans cette maison. C'est lui-même qui choisit. Il dit, je décide de restituer x4. Il pouvait se contenter de restituer tout simplement. Mais il dit, mais je restitue x4 tout ce que j'ai pris. Luc 15, le fils perdu. Il décide, il dit, bon, je vais retourner, je vais aller voir mon père. Pour lui dire, mon père, j'ai mal fait, je me suis mal comporté. C'est ça la vie chrétienne, ce sont des choix. Ce sont des choix. Mais qu'est-ce qui nous empêche? C'est l'orgueil. L'orgueil, la chair d'abord. Mais qu'est-ce qui soutient la chair, comme on a lu dans Galates 5:16? Mais ce qui soutient la chair, c'est l'orgueil. L'orgueil, parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. La chair, parce qu'il y a le péché. Mais en plus, l'orgueil, qui est un autre péché qui se greffe. Et les deux ensemble, eh ben, ça fait que on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. On ne peut pas. Et heureusement, on va te dire, mais attends, mais tu es parti. Maintenant, tu vas revenir, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Toi, tu es chrétien depuis tant d'années. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ben, c'est ça. Mettons notre orgueil de côté. Disons, Seigneur, je viens. Je choisis aujourd'hui de m'humilier. Seigneur, j'ai choisi aujourd'hui de faire ta volonté. Je choisis aujourd'hui de me repentir. Je choisis aujourd'hui d'obéir. Je choisis de fuir, de renoncer au péché. Je choisis de pardonner. Je choisis cela. Il y a tellement de choses à dire. Nous allons finir par Deutéronome 30, que nous avons lu au verset un peu plus haut. Le Seigneur nous dit une chose, il nous dit, la parole que je te donne aujourd'hui, Israël, elle n'est pas au ciel, pour que tu dises, qui montera jusqu'au ciel pour me l'apporter. Le Seigneur dit, elle n'est pas de l'autre côté du rivage, pour que tu dises, qui va traverser, c'est trop difficile. Mais cette parole, elle est où? Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que la vie chrétienne, c'est un choix. Qu'est-ce que je décide? Parce que la parole est dans ma bouche et dans mon cœur. Nous lisons ça. Nous lisons pour finir, Deutéronome 30, 14. Deutéronome 30, 14. On peut commencer, au verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Voilà ce que Dieu dit. La parole que Dieu nous donne, elle n'est pas au-dessus de nos forces. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'en réalité, la mise en pratique, c'est un choix. Dire, Seigneur, quitte à être honnête, comme le premier fils, dire, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est trop difficile. J'ai pas envie. Mais puisque je t'aime, et puisque c'est toi qui me demandes, je choisis quand même d'obéir. C'est ça. Il dit, cette parole que je te donne n'est pas au-dessus de tes forces ou hors de ta portée. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel pour nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il dit la parole qu'il nous donne, elle est dans notre bouche, elle est dans notre cœur. Si nous sommes chrétiens, si nous ne sommes pas chrétiens, on peut faire un choix. Et le choix, c'est dire, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, j'ai échoué. Jésus, j'ai essayé de faire les choses par moi-même, par comprendre par moi-même. Mais je me rends compte que finalement, je me suis trompé. Et si tu es chrétien, le Seigneur te dit aujourd'hui, la parole qu'il te donne, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, vérifie maintenant dans ta bouche. Est-ce qu'elle y est, la parole de Dieu? Est-ce que les paroles que tu dis, ce sont des paroles de bénédiction? Ou alors, quand tu ouvres la bouche en pensant à un tel frère, à une telle sœur, c'est toujours un mal. Si tu penses qu'elle est dans ta bouche, alors Dieu dit, vérifie dans ton cœur. Parce que des fois, le cœur peut dire quelque chose et la bouche dire autre chose. Mais généralement, ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui est vrai. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. En réalité, c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort, c'est réellement la nature de la personne. Alors, si tu penses que dans ta bouche, c'est bon, alors vérifie dans ton cœur. Quels sont les choix que tu fais? Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide et que nous puissions être humbles devant le Seigneur. Si nous avons passé du temps à déshonorer le Seigneur par les choix que nous avons faits, si nous avons résisté comme nous l'avons lu, ce jeune homme riche a résisté à l'appel du Seigneur, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Si nous avons de l'amertume, de la colère, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peut-être pas de la haine parce que c'est grave, mais tout est péché, nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre. Et qu'aujourd'hui, nous puissions faire les choix que le Seigneur attend de nous. Nous les connaissons. Nous connaissons ce que Dieu attend de nous tous les jours. Qu'on obéisse à sa parole. qu'on se repente lorsqu'il y a besoin, qu'on demande pardon lorsqu'il y a besoin, qu'on ne soit pas dans une attitude de dire « bon, je préfère me retirer, je suis dans une équipe, je me retire parce que je ne m'entends pas avec un tel ». Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Ça, c'est la fuite. Et on nous a prêché une fois « dehors les lâches ». Le lâche, c'est celui qui fuit les problèmes. Le courageux, c'est celui qui affronte les problèmes. Il dit « oui, c'est vrai, j'ai un problème. Alors Seigneur, je viens pour que tu m'aides, pour que tu me délivres ». C'est ça le courageux. Le courageux, c'est le fils prodigue qui revient voir son père pour dire « mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. » Mais Dieu, dans sa grâce, nous recevra. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole qui me parle à moi premièrement, Seigneur. La vie chrétienne, c'est une question de choix. Une question de choix tous les jours. D'obéissance, une question de choix devant le péché, de refuser le péché, dénoncer le péché, fuir le péché. Une question de choix dans la repentance, Seigneur. Une question de choix dans le pardon, Seigneur. Une question de choix dans la maîtrise de soi aussi, Seigneur. Lorsque nous sentons que, Seigneur, nous voulons mal réagir, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides afin de faire le bon choix. De ne pas manifester, Seigneur, l'impulsivité, Seigneur. De ne pas être impulsif, Seigneur. Manquer de maîtrise de soi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire le choix que tu attends de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous touche aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous demande, Seigneur, de sortir de la superficialité comme ce deuxième fils dans la parabole des deux fils qui a dit oui, Seigneur, tout simplement pour faire plaisir. Mais nous voulons être comme le premier. Nous reconnaissons, Seigneur, parfois que ce que tu nous demandes est parfois difficile pour la chair, mais Seigneur, tu nous as donné l'esprit, Seigneur, ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Tu as mis en nous ta parole comme nous l'avons lue. Elle est dans notre bouche, dans notre cœur. Et nous n'avons aucune excuse, Seigneur, pour ne pas la mettre en pratique. Nous prions pour que tu nous aides aujourd'hui. Seigneur, à faire les choix que tu attends. Merci pour ta parole, ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.